Lansk RFI.
Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ils sont 11 ressortissants français condamnés à mort en quelques jours par un tribunal irakien pour appartenance à l'organisation État islamique. Et ce n'est peut-être qu'un début car il serait plusieurs centaines d'autres actuellement détenus sur la zone irako-syrienne à être susceptibles d'être jugés de la même manière. Manière qui pose question parce que la France s'oppose à la peine de mort et parce que si le ministre des Affaires étrangères affirme que les procès ont été équitables, ce n'est pas forcément l'avis des avocats français, des intéressés et des organisations de défense des droits de l'homme. Condamnés à mort en Irak, que doit faire la France? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous. Marie Dauzé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris et vous défendez notamment des enfants français retenus dans des camps en Syrie. Et par téléphone, parce qu'il pleut à Paris aujourd'hui et ça circule très mal, mais elle nous rejoint en studio. Bénédicte Jeannereau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice pour la France de l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Le sujet du sort des djihadistes français dans la zone irako-syrienne n'est pas nouveau. Il existe depuis que certains se sont rendus ou ont été capturés. Il concerne les combattants eux-mêmes, mais aussi leurs familles et notamment leurs enfants. Quelle est votre position là-dessus, Marie Dauzé? Ils doivent être jugés sur place, rapatriés, jugés en France. Comment est-ce que vous abordez ce problème?
Écoutez, c'est très compliqué parce qu'au départ, il y a un concours de compétences entre l'Irak et la France. Ces personnes sont judiciarisées d'abord en France, puisque le simple fait de vouloir partir en Syrie ou de partir en Syrie, c'est constitutif d'une association de malfaiteurs à caractère terroriste et tous les juges d'instruction sont saisis de leur cas. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont déjà été condamnés par défaut en France. Donc, ils sont d'abord judiciarisés en France, mais voyez-vous...
Par ordre chronologique, c'est ce
oui,
que vous voulez dire.
D'abord, mais ensuite, ils sont... prisonniers au Kurdistan syrien. Et ils ne sont pas judiciarisés en Irak lorsqu'ils sont prisonniers au Kurdistan syrien. Et la difficulté donc, c'est que ils ont été livrés à l'Irak avec l'aval du président de la République, Emmanuel Macron, des autorités françaises. Tout en sachant évidemment que la justice antiterroriste irakienne est une justice qui exécute en masse. Est une justice qui ne pratique pas des procès équitables. Ce n'est pas l'avocat qui vous le dit, c'est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et nous devons respecter nos engagements européens. Une minute de plaidoirie de la défense, c'est la plus longue plaidoirie qui a été réalisée
sur ces procès.
Mmh. Une minute, puis la sentence, la condamnation à mort. Alors, sous-traiter judiciairement des ressortissants français à une justice antiterroriste qui condamne à mort, ça me pose une difficulté, voyez-vous.
Bénédicte Jeannereau, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous êtes également surprise ou choquée de la manière dont ces procès se sont déroulés?
Oui, bien sûr. Alors, ces procès en particulier, et Human Rights Watch documente depuis longtemps la justice extrêmement défectueuse irakienne, en général, et en particulier en ce qui concerne des personnes qui sont soupçonnées d'appartenance à l'État islamique, notamment par la pratique de la torture, de la détention arbitraire, de l'extorsion d'aveux sous la contrainte. Et donc, on peut être très surpris quand le ministre des Affaires étrangères essaie de nous rassurer en nous disant qu'il s'agit bien de procès équitables, alors qu'on a pu documenter qu'il s'agit d'une justice absolument expéditive qui aboutit à la peine de mort que la France refuse et à des droits de la défense qui sont extrêmement défectueux. Excusez-moi, je cours sous la pluie.
Oui. Vous nous rejoignez, alors on va vous laisser nous rejoindre un petit moment. Marie Dauzé, il y a plusieurs problèmes que vous avez évoqués dans votre première réponse. Peut-être le premier d'abord, comment ces personnes qui se trouvaient en Syrie, au Kurdistan syrien, se sont retrouvés transférés en Irak. Quelle est la façon dont ça s'est passé?
Mais tout ça est très opaque. Hein. Oui. Cela fonctionne avec des accords dont on ne sait finalement rien. Peut-être qu'un jour l'histoire nous le dira. Mais ce qu'on sait, c'est que les Kurdes, en tout cas les forces qui les détenaient, les forces démocratiques, les ont livrés. Pourquoi ces 12-là? Qui étaient-ils? On ne le savait même pas. Il faut comprendre que leurs familles ont découvert qu'ils étaient condamnés à mort par la télévision. Donc ils sont livrés à l'Irak, et nous l'avons constaté dans le cadre d'un exercice de communication entre le président irakien et le président de la République française, qui s'en sont félicités tous les deux. Pourquoi eux et dans quelles conditions, nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que pour chaque procès, c'est 2 millions d'euros pour l'Irak. Que l'Irak a réclamé 1,8 milliard de dollars pour s'occuper de la judiciarisation des djihadistes étrangers. C'est pas très rassurant tout de même.
Oui, oui, il y a cette question effectivement de la justice irakienne qui propose de juger donc ces djihadistes étrangers moyennant finances. C'est comment vous qualifiez cette proposition? C'est assez étonnant quand même.
Je l'ai dit, c'est un contrat de sous-traitance judiciaire qui finalement est pour moi indécent sur beaucoup de registres. Je voudrais juste qu'on entende aussi la parole des victimes, parce que moi j'en défends des victimes d'attentats. Je défends les victimes par exemple de l'attentat de Karachi, puis je défends aussi les collègues de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, que vous connaissez bien ici.
Absolument.
Dans cette maison RFI. Et ils n'attendent qu'une seule chose, ces victimes, c'est un procès, un vrai, pour comprendre quelque chose qui soit prégnant, un vrai procès où ils seraient assis face à des avocats de la défense, mais aux côtés de leur conseil, un procès à charge et à décharge, un procès qui fabrique l'histoire avec un H majuscule judiciaire. Et c'est aussi ce que ces procès en Irak leur enlèvent.
C'est aussi ce que réclament d'ailleurs dans un communiqué très récent les familles des victimes des attentats de Paris du 13 novembre. Alors que Bénédicte Jeannereau nous rejoint à l'instant, soyez la bienvenue, asseyez-vous, vous devez être un petit peu essoufflé. Enfin, tout de même, je vais vous poser la question à toutes les deux. N'est-il pas normal que des pays qui ont été confrontés au terrorisme, comme l'Irak, veuillent juger des faits qui se sont produits sur leur sol, Bénédicte Jeannereau?
Ben, en fait, la question, c'est surtout de savoir est-ce que ces pays assurent une justice équitable, et est-ce que la France ne serait pas à même de juger ses propres ressortissants et ne pas sous-traiter la gestion de ses ressortissants à des pays comme l'Irak. J'ai pas pu réagir sur la question du transfèrement, mais ces personnes-là ont été transférées en Irak du nord-est syrien. Ce sont des transfèrements qui sont illégaux du fait du risque de torture et de justice inéquitable. Et donc il y a toute cette question autour de l'incohérence de la position française qui se dit contre la peine de mort, mais qui permet ou qui autorise ou qui supervise, ça je ne le sais pas, nous l'avons pas documenté, le transfert de ces ressortissants à la justice irakienne, qui est en plus engorgé par un très grand nombre de procès, puisque des milliers de détenus irakiens ou étrangers attendent d'être traduits en justice.
Je vous repose la question à vous, Marie Dosé. Est-il normal que des pays qui ont été confrontés au terrorisme sur leur sol, l'Irak à Mossoul par exemple, veuillent juger des personnes dont elles considèrent qu'elles ont participé à ces faits?
Oui, mais il y a des priorités. Et s'il est compréhensible qu'ils souhaitent que la justice passe dans leur pays, force est de constater que cette justice, qui est une justice arbitraire, expéditive et qui ne respecte pas les règles du procès équitable, ne doit pas s'appliquer à nos ressortissants. Je suis désolée. Ou alors on est en train finalement de rétablir indirectement la peine de mort en dehors de nos frontières, c'est tout. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas assumer. Il n'y a pas de difficulté, mais il y a une concurrence de compétences, je le répète. Et dans la mesure où la justice, qui les réclame à peine, pardon, on les a livrés, c'est pas tout à fait la même chose. On livre nos ressortissants français qui n'étaient pas judiciarisés en Irak, mais qu'ils ne l'étaient qu'en France. C'est pas tout à fait. C'est pas comme si quelqu'un est pris dans un trafic de stupéfiants et puis se fait arrêter dans un pays qui ne respecte pas les droits du procès, le procès équitable. On n'est pas dans cette configuration. Aujourd'hui, ils sont judiciarisés uniquement en France. Ils sont détenus et on les livre à un pays dans lequel ils n'étaient pas judiciarisés, qui pratique la peine de mort et qui multiplie les procès arbitraires.
Bénédicte Jeannereau.
Oui, et je pense aussi qu'il y a la question de la qualité de cette justice. Il est évidemment indispensable que ces personnes-là soient... qu'il y ait des investigations qui soient ouvertes contre ces personnes, que les personnes qui ont commis des crimes, et notamment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, soient traduits en justice pour cela. L'autre point que nous avons mis beaucoup en avant, c'est sur le système judiciaire irakien, c'est qu'il ne donne pas la place à la participation des victimes. Or, ça paraît extrêmement important pour faire la justice autour de ces crimes que les victimes aient la voix au chapitre. Et surtout, les faits sont très peu établis. Il faudrait aussi aussi faire des vraies instructions, des vraies enquêtes qui établissent à une vraie un vrai établissement des faits, de manière à pouvoir aussi faire de ces procès un éclaircissement sur la voie de la vérité.
Ces accusés, ces condamnés même maintenant, hein, puisqu'ils sont officiellement condamnés à mort en Irak, ils ont des avocats français. Quelle relation, à votre connaissance, Marie Dosé, ils peuvent entretenir avec ces avocats français?
Non, mais de toute façon, moi, d'abord, je ne défends pour l'instant et je ne défends tout court aucun combattant. Et si un jour...
Non, je parle pas de
vous. Non, mais je vous dis, je sais, mais je vais vous expliquer. Je n'irai jamais en Irak pour assister dans le cadre de ces procès à un ressortissant français. Pourquoi faire si Monsieur Le Drian considère que notre présence suffit à ce que ce procès puisse revêtir un caractère équitable, eh bien, je le laisse libre de ses propos. Mais moi, je ne vais pas servir à, justement, instrumentaliser ce type de discours. Une minute, nous découvrons, il découvre nos pauvres confrères irakiens.
Commis d'office, hein.
Commis d'office, qui ne sont ni libres ni indépendants. Ils découvrent les dossiers à la dernière minute, ne connaissent pas ce qu'ils défendent. Et comme le dit très bien madame, ce n'est pas la vérité judiciaire qui passe. Ce n'est pas ça la vérité judiciaire, et nous en avons tous besoin. Nous avons besoin de comprendre pourquoi ils sont partis là-bas, nous avons besoin de savoir ce qu'ils ont fait, ce n'est pas avec ces procès que nous le saurons. Voilà. Donc la justice expéditive, c'est surtout celle qui ne passe pas et qui fait en sorte que jamais nous ne comprendrons ce qui nous est arrivé. Dernier point. En France, on réclame sans cesse l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. Aujourd'hui, on a un président de la République qui va dicter la peine à une justice antiterroriste irakienne qu'il considère pourtant tout à fait équitable. Mais de qui se moque-t-on ? Est-ce que c'est vraiment ça, respecter les aspirations irakiennes à juger nos ressortissants ? Non mais franchement...
Alors justement, c'est l'autre problème, la peine de mort. La France est contre depuis 1981 et elle s'y oppose dès qu'elle en a l'occasion. Et elle affirme tout faire pour que cette peine de mort ne soit pas appliquée dans ces cas précis. Bénédicte Jeannereau, à votre connaissance, la consiste en quel type d'action tout faire pour que la peine de mort ne soit pas appliquée ?
Enfin, je veux dire, c'est une vraie question, le fait que le ministre des Affaires étrangères dise dans une même phrase que la France, que la justice irakienne est souveraine, et ensuite que la France va tout faire pour faire commuer une peine. Je vois même pas, en fait, pratiquement comment ça peut se faire. C'est finalement très méprisant aussi vis-à-vis du système judiciaire irakien de penser que le ministre des Affaires étrangères pourrait faire commuer une peine capitale en une peine de prison à vie. Et puis, de toute façon, la meilleure manière, le combat de la France contre la peine de mort, c'est un vrai combat. Je veux dire, elle a pris évidemment des positions très fortes au niveau national, elle a pris des positions très fortes au niveau international. Et là, d'un seul coup, on se mettrait à déléguer l'application de cette peine à un système judiciaire qui est très défectueux, tout en condamnant la peine de mort. Enfin, il y a vraiment une contradiction qui est complètement, incompréhensible. Nous, ce qu'on prône à Human Rights Watch, c'est que ces personnes-là ne devraient pas être transférées en Irak, que la France devrait autoriser leur retour en France et permettre que ces personnes-là soient poursuivies en justice en France, soient condamnées en France, et qu'il y ait une vraie justice qui fasse la lumière sur les faits qui soient rendus.
Marie Dosé, et vous aussi d'ailleurs, Bénédicte Jeannereau, je vous pose la question clairement, est-ce que vous mettez en doute l'implication de l'État français à faire commuer ces peines de mort en peine de prison à vie?
Non, mais moi, je vais vous dire, je pense qu'on multiplie les exercices d'improvisation. Et c'est vrai qu'on est surtout dans une incompréhension et dans une incohérence prégnante sur tous ces sujets. Il n'y a aucune ligne claire et définie depuis le début. Je parle de ces personnes qui viennent d'être condamnées à mort, mais je parle aussi des femmes et des enfants, et nous y reviendrons, je l'espère. Mais très franchement, je ne veux pas faire ici de la politique fiction. Je ne sais pas ce que les autorités françaises ont exactement dans la tête, mais je suis surtout presque persuadée qu'elles ne le savent pas elles-mêmes, et qu'elles improvisent, et elles improvisent sur des questions qui ne le méritent pas.
Bénédicte Jeannereau, même question.
Non, j'ai pas de réponse à ça. Je pense que c'est plus aux responsables français qui se sont avancés sur ce terrain-là d'expliquer comment tout ça va se faire. Je pense en tout cas que ça n'est pas une solution d'accepter la peine de mort, d'affirmer ensuite qu'on va essayer de la faire commuer. Je crois qu'il y a vraiment des choses qui me paraissent très incohérentes. et que le meilleur moyen de ne pas que la peine de mort ne s'applique pas, c'est de ne pas transférer ces personnes-là à un système judiciaire extrêmement abusif.
Alors, on ne va pas faire de politique fiction, mais peut-être, Marie Dosé, un peu de justice fiction, en admettant que les peines soient commuées en peine de prison à vie. Est-ce que les condamnés peuvent demander à purger leur peine en France ? Ça, c'est déjà vu, des affaires judiciaires pénales à l'étranger, où le condamné était français et rapatrié. Oui, enfin, y a plein d'exemples, très connus, très célèbres. Est-ce que c'est faisable, ça ?
Dans l'absolu, oui, ça pourrait l'être, effectivement. Hein. Nous ne sommes pas ici au Kurdistan syrien, nous sommes en Irak, donc il y a des autorités consulaires. Oui, dans l'absolu, ça pourrait effectivement se passer. Mais je le répète, vous savez, il y a une petite difficulté aussi, si je puis me permettre, c'est qu'il n'existe pas la peine de réclusion criminelle à perpétuité en Irak.
C'est 20 ans.
Hein. C'est 20 ans le maximum. Et il se trouve que finalement, c'est donc un maximum plus bas que le quantum maximum prévu dans le droit pénal français pour ce type d'infraction. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais il y a quand même de toute façon des incohérences à tous les étages. Hein.
Et c'est possible, Bénédicte Jeannerot, que si ces personnes sont condamnées à mort et que leur peine de prison est commuée, leur peine de mort est commuée en peine de prison à vie, que cela puisse, justement, pour ces raisons, entraîner des négociations entre États, parce que c'est un coût, un prisonnier, tout simplement aussi.
Sans doute, là j'avoue que
je sais pas, c'est un petit peu
la limite de ma compétence, et c'est pas des sujets sur lesquels on a enquêté à Human Rights Watch, mais oui, j'imagine qu'un condamné à perpétuité dans un pays peut faire une demande de transfèrement à la France. Mais encore une fois, je crois qu'il y a la question de la peine. Il y a vraiment la question aussi du procès, de la nature du procès. Je crois que c'est vraiment très important de redire que ces procès sont des procès extrêmement expéditifs, qui ne permettent pas l'établissement des faits, et qu'il serait tout à l'honneur de la France, ou même tout au devoir de la France, de faire que ses ressortissants soient jugés sur son propre
sol.
Nous
en avons besoin, les victimes en ont besoin, notre histoire en a besoin.
Marie Dosé, il y a aussi un problème politique qu'on ne peut pas ignorer. L'opinion publique, pour ce que l'on en sait, est très largement opposée au retour des djihadistes, même en prison. Est-il possible de convaincre les gens des solutions que vous préconisez ? Est-ce que ce n'est pas un combat un peu compliqué ?
Mais écoutez, je pense que d'abord l'opinion publique, elle se divise en des tas de personnalités. Je suis pas certaine, moi, que l'opinion publique trouve que tout cela va dans le bon sens. Vous savez, je vais vous dire.
C'est très difficile de la faire parler à partir d'un sondage sur 1000 personnes, évidemment, bien sûr.
C'est moi, c'est vrai que je me suis un petit peu agacée hier. J'étais interrogée en évoquant la foule, parce que c'est compliqué aussi. Il ne faut pas mélanger l'opinion publique et la foule et la fachosphère. Mais je crois aussi que, à un moment donné, les autorités françaises ne doivent pas se focaliser sur ce qu'elles entendent de pire, et que on doit pouvoir s'émanciper d'une émotion quand elle charrie le pire, parce qu'elle n'entend plus rien. Voilà. Et je crois que c'est la responsabilité de chacun, des autorités, des avocats. À un moment de notre vie, il faut s'émanciper de l'émotion quand elle n'arrive pas à se raisonner, c'est tout, voilà. Et vous savez, vous parlez de ça, mais quand on imagine qu'une opinion publique, mais je n'y crois plus, majoritaire, était contre le retour d'enfants qui sont innocents, d'enfants qui n'ont rien fait, d'enfants qui n'ont pas demandé à naître ou à être emmenés en Syrie, eh bien, cette opinion publique-là, oui, il faut la laisser de côté et s'en émanciper. Et puis un jour, elle aura besoin d'un deuil et elle sera contente d'assister à des procès, des vrais procès, où elle comprendra ce qui lui est arrivé. Mais à l'instant T, il faut savoir s'en émanciper parfois.
L'opinion publique, il faut la considérer comme elle a été considérée quand la peine de mort a été abolie en France, Bénédicte Jeannerot. Les gens étaient contre l'abolition.
Je pense qu'il y a aussi une manière d'expliquer les choses. On ne dit pas que ces personnes-là ne doivent pas être jugées. Je veux dire, prôner une justice équitable, ça n'est pas prôner l'indulgence. Je pense qu'un responsable politique peut prendre la décision d'assumer que des personnes, des ressortissants français qui ont commis des crimes ou qui sont suspectés de crimes, bénéficient d'une justice équitable qui donne la place aussi à la voix des victimes.
Merci Bénédicte Jeannerot, merci à vous également Marie Dosé d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Arnold Assoa à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.